France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis le début du mois de septembre, les incursions russes dans les espaces aériens européens se multiplient. Avions de chasse au-dessus de l'Estonie, drones dans le ciel de la Pologne, survols répétés des pays baltes et, aujourd'hui encore, des drones aperçus au Danemark. Ce qui pouvait passer pour des incidents isolés prend désormais la forme d'une stratégie de test destinée à jauger la réactivité militaire et la cohésion politique des alliés. Alors jusqu'où l'OTAN est-elle prête à aller pour répondre à ces provocations? Deux invités pour nous éclairer. Amélie Zima, bonsoir. Vous êtes chercheuse au sein du Centre des études de sécurité de l'IFRI, responsable du programme intitulé « Sécurité européenne et transatlantique ». Je signale la publication en 2021 et en 2023 d'un que sais-je sur l'OTAN. Face à vous, Elsa Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'espace post-soviétique et de la Russie. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage intitulé « La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie », un ouvrage qui a apparu chez Robert Laffont en 2024. Merci à vous deux d'être présentes ce soir. Dans Question du soir. C'est à vous, Elsa Vidal, que revient la première question. À travers ces incursions russes multiformes qui ont peut-être pour point commun la traversée du ciel européen, qu'est-ce que cherche véritablement la Russie ?
Alors ma première réponse va peut-être vous surprendre, mais je pense que la Russie est à la recherche d'informations. Elle est à la recherche d'informations concernant le niveau d'unité au sein de l'Union européenne, le niveau d'unité au sein de chaque société européenne qui sont quand même traversées par des courants contraires qu'elle compte bien, le cas échéant, exploiter, et le niveau d'unité entre les États-Unis, l'ancien allié, j'ai envie de dire, ou peut-être le nouvel allié, et les Européens alliés de l'Ukraine. C'est aussi, de mon point de vue, une recherche, voilà, que les Russes pratiquent sous la forme de ce test très irritant. Donc, ils cherchent des informations.
Ils cherchent à provoquer des réactions et donc à s'informer par l'intermédiaire de ces réactions.
Elles cherchent à nous pousser à la faute pour pouvoir nous blâmer en cas de réaction fébrile, prématurée, qui pourrait être qualifiée d'agression de leur part. Elles cherchent à rentrer dans le jeu politique, à établir avec nous un dialogue. D'ailleurs, nous le faisons et nous ne devrions pas le faire, à mon sens, en essayant de justifier nos réactions, de qualifier nos réactions, de rassurer les Russes sur la nature des réactions à venir. Et puis, elles cherchent effectivement à avoir de l'information sur nous, nos plans opérationnels, notre capacité de réaction opérationnelle, notre capacité politique, c'est-à-dire notre détermination. Et plus nous commentons, plus nous lui fournissons les informations dont elle a besoin pour revenir dans le jeu.
Amélie Zima, vous identifiez les mêmes motifs. Pour vous, la priorité de la Russie, c'est d'abord de s'informer sur, l'état des forces européennes et nos capacités à réagir.
Exactement, oui, je souscris tout à fait à cette analyse. Elle est à la recherche d'informations, comment l'OTAN peut réagir militairement, est-ce que les pays sont préparés ou pas, est-ce que les pays sont unis. On est aussi à un moment de test politique, parce que l'Alliance Atlantique peut sembler fragilisée, parce que on a une position qui est un peu chaotique du côté de Washington. Et donc, c'est un moyen aussi de tester cette unité politique qui pour l'instant existe et est forte. Quand il y a eu les incursions de drones en Pologne, il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant polonais a fait une déclaration en prélude à cette réunion, qui a été soutenue par plus d'une quarantaine d'États, dont les États-Unis, mais aussi la Hongrie et la Slovaquie, qui sont quand même plutôt pro-russes. Et concernant la Pologne, ça peut être aussi un test de l'unité politique du pays, parce qu'on est dans une période de cohabitation qui est extrêmement houleuse entre le président Karol Nawrocki, issu du PiS, et le gouvernement PO emmené par Donald Tusk. Sauf que ce qu'on voit là, c'est que c'est un échec, parce qu'il y a une très très grande unité politique de l'exécutif polonais. Il n'a pas réussi, par exemple, à avoir une faille en Pologne.
Donald Tusk, vous l'évoquiez, voici sa voix. Est-ce qu'il explique justement sur ces incursions et leurs motifs ?
Nous prendrons la décision d'abattre tout objet volant. Cela ne fait absolument aucun doute. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui ne sont pas tout à fait claires, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de décider de mesures qui pourraient déclencher une phase très aiguë de conflit. Et c'est là que nous en sommes, en accord constant avec nos alliés. Nous sommes prêts à prendre toute décision visant à détruire les objets qui pourraient constituer une menace pour nous, si les Russes violent et survolent nos eaux territoriales. Je dois également être absolument certain que tous nos alliés traiteront cette question exactement de la même manière que nous.
Ils sont forts, Elsa Vidal, ces propos de Donald Tusk, le Premier ministre polonais. On observe, on remarque tout de même un hiatus important entre la force de sa parole et peut-être, j'allais dire, la tempérance pour être diplomate de d'autres responsables politiques européens.
Oui, il y a une forme de tempérance, mais je trouve qu'elle reflète plutôt une culture politique différente d'un pays à l'autre, plutôt qu'une froideur ou une forme de frilosité. Il me semble qu'il y a eu quand même un accord assez général sur la nécessité de monter en gamme et de faire preuve de fermeté. Il se trouve qu'effectivement, côté polonais, on a été le plus en pointe, le plus ferme, mais suivi de très près par la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui parlait tout d'abord d'une menace grave, puis aujourd'hui d'une menace systématique après une deuxième nuit de survol par des drones. Donc il me semble que chacun dans sa langue et en codant dans sa propre culture politique, chacun encore une fois, parmi les alliés qui prennent la parole, le font en rendant compte de leur détermination et de leur absence de fébrilité. Et c'est très important que cette fébrilité soit absente du tableau, parce que c'est elle qui pourrait précipiter vers un acte irréfléchi. Donc moi, je me réjouis véritablement de voir que nous passons un à un, séparément, c'est-à-dire chaque pays et collectivement via l'OTAN, via l'ONU et peut-être demain via la Commission européenne, les tests qui montrent une forme de maîtrise finalement de la situation. Nous l'apprécions, mais nous ne nous laissons pas pour le moment guider à réagir par précipitation et surtout par des règles que nous n'aurions pas choisies. Nous avons des règles d'engagement, on y reviendra sans doute. Nous avons des cas de figure et rien ne justifie à l'heure actuelle que nous cédions à la panique. Il n'y a pas encore de danger, pas de menace, sinon ces objets auraient été abattus.
Pologne, Roumanie, Estonie, Norvège, on parlera du Danemark mais dans un second temps. Pourquoi ces quatre pays, le ciel de ces quatre pays a-t-il été traversé par des drones russes, Amélie Zima? Pourquoi ces quatre pays en particulier?
Je dirais que pour le cas de la Pologne est quand même un des soutiens majeurs de l'Ukraine. C'est aussi un pays qui accueille la mission de l'Union européenne qui entraîne les troupes ukrainiennes, IUMAM. C'est un pays qui accueille dans son sud, au sud-est, dans la ville de Jeshuv, le pôle, le hub en fait, qui permet d'aller vers l'Ukraine et de transférer de l'aide et du matériel. C'est aussi le pays qui accueille depuis cette année le centre de RETEX de l'OTAN sur l'Ukraine, JATEC, dans la ville de Bydgoszcz. Donc, et pour les Pays-Baltes, c'est exactement similaire. Ce sont des pays qui sont des très forts soutiens à l'Ukraine et ce sont aussi des pays, en fait, qui alertent depuis maintenant presque une dizaine d'années sur la menace que fait peser la Russie sur l'Europe.
Sans être tellement entendu par les Européens de l'Ouest.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les Européens de l'Ouest, il y a des nuances. Je mettrai les Britanniques de côté parce que les Britanniques ont été vaccinés avec les affaires Litvinenko et Skripal, ces affaires d'empoisonnement sur leur sol. Donc, les Britanniques sont un cas à part, mais ces pays-là étaient effectivement taxé de russophobe. Or, les incursions, les violations de l'espace aérien, par exemple pour l'Estonie, il y en a eu 40 depuis 2014. Donc, il y avait quand même des signaux d'alerte. Les Russes ont fait sauter des magasins d'explosifs en République tchèque en 2014. Ça a été attribué au GRU. À Varsovie, en mai 2024, vous avez un centre commercial qui a été entièrement incendié. Ça a été attribué également à la Russie. Donc, en fait, des actions hostiles russes sur le territoire de ces pays-là, il y en a déjà depuis longtemps. Je dirais que ces pays-là savaient à quoi s'en tenir. Et là, on a en fait une sorte de prise de conscience des Européens de l'Ouest sur la vraie nature en fait, des actes que commettent la Russie.
Et pourquoi le Danemark alors, Elsa Vidal? Le Danemark, on n'est quand même pas sur le front de l'Est européen là?
Non, on n'est pas effectivement sur les pays de la Scandinavie qui sont les plus en pointe dans l'alarme face à la menace russe. On pourrait penser d'abord à la Finlande et à la Suède. Le Danemark vient quand même d'annoncer qu'il allait consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires à l'aide militaire à l'Ukraine à un moment qui est critique tant pour l'Ukraine que pour la Russie. Donc je pense que c'est un facteur déterminant. Et puis, comme d'autres pays riverains de la mer Baltique, il est concerné aussi par d'autres affaires qui ne sont pas des objets volants, mais plutôt des objets flottants, c'est-à-dire les sabotages des câbles sous-marins qui viennent depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre en réalité, créer un climat de très grande tension. Donc la mer Baltique est une mer très importante pour les Russes. Il est donc important de perturber là aussi le climat politique et militaire.
Thomas Gomard dans Les Échos, je le cite, bloqué en Ukraine, dit-il, Poutine déporte le conflit vers d'autres pays européens, toujours dans une logique de maximiser la guerre avec Kiev pour rompre le lien transatlantique, en exploitant le cadeau stratégique inespéré que lui fait Donald Trump, faire de Kiev le fauteur de guerre. Amélie Zima, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos?
Vous souriez, vous
rigolez même.
Vous me demandez de me prononcer sur les propos du directeur de mon institut, Thomas Gomard.
Justement, je vous teste moi aussi.
Donc, ce que je dirais, c'est que pour l'instant, le lien transatlantique, on a effectivement des doutes. Donc, c'est pour ça que Poutine peut tester. Ce qu'on disait aussi en février 2022, c'est que Poutine estimait que l'OTAN était fragilisée par le retrait chaotique d'Afghanistan et que donc, il voyait une sorte de fenêtre d'opportunité. Donc, on peut penser qu'effectivement, cette fenêtre d'opportunité peut exister. Les États-Unis veulent se désengager de l'Europe. Bon, ça fait 30 ans qu'ils disent qu'ils veulent se désengager de l'Europe. L'Europe est dépendante des États-Unis pour un certain nombre de capacités. Cela étant dit, certains pays européens, quand même, ne mettent pas tous leurs œufs dans le panier américain et ont commencé à développer des initiatives propres, des initiatives régionales. Je pense notamment à ce que fait la Pologne, mais aussi les Pays-Baltes, en développant ce qu'on appelle la ligne de défense baltique ou le bouclier Est, qui comporte d'ailleurs des éléments de lutte anti-drone. Je pense également aux murs anti-drone que la Finlande, les Baltes et la Pologne commençaient déjà à envisager dès mai 2024. Les premières discussions portent là-dessus. Là, l'Union européenne vient de se saisir de ce projet sur la fin der Leyen en a parlé. Donc, il y a un moment de test, effectivement, pour l'Alliance Atlantique. Des pays commencent à s'organiser de façon régionale hors de l'OTAN. Et pour l'instant, cela dit, on n'a pas de doute sur la pierre angulaire de l'OTAN, qui est l'article 5. On n'a pas de doute là-dessus. Pour l'instant, les déclarations américaines ne remettent pas fondamentalement en cause l'article 5.
Ce qu'il faut peut-être mentionner sans attendre, Elsa Vidal, c'est par ailleurs la grande opération qui se prépare présentement en Biélorussie, Zapad 2025. Dites-nous d'abord ce que ces 13 000 soldats viennent faire non loin de la frontière polonaise et surtout comment on l'articule théoriquement avec ces intrusions différentes dans le ciel de pays européens.
L'exercice Zapad 2025, c'est le premier qui s'est tenu depuis le début de la guerre en Ukraine. Le précédent, c'était 2021. Et cette répétition a fait planer une tension supplémentaire. L'objectif était clairement de pousser la Pologne à paniquer et à pouvoir l'incriminer ensuite, lui faire porter la responsabilité d'actes relativement agressifs. La Pologne a fermé la frontière avec le Bélarus où une partie de l'exercice se déroulait, d'autres parties de l'exercice se déroulant sur le territoire russe. Et ce qu'on a vu, c'était une volonté d'impressionner, d'intimidation qui a été un peu comique puisque le Kremlin a communiqué une journée particulière, le chiffre de 100 000 hommes, deux fois moins dans ce cas-là de ce qui avait été impliqué en 2021. Au même moment, l'agence d'État TASS disait qu'il y en avait moitié moins et trois fois moins de matériel impliqué que le Kremlin. Donc, cafouillage sur la ligne. Mais ça nous montre bien quelle est l'intention. L'intention est de mettre une pression maximum, de faire croire qu'il est possible qu'une attaque se déroule à partir du territoire biélorusse, non pas sur l'Ukraine, mais en direction de la Pologne. Une attaque conventionnel, déguisé dans l'exercice militaire, tout comme cela a été le cas en 2021. La Pologne ayant été en plus échaudée par le fait que elle a déjà subi des attaques hybrides avec des migrants transportés directement depuis l'Irak jusqu'au Bélarus pour envahir sa zone frontière. Donc les dirigeants russes qui mettent en œuvre ces tactiques, qui n'arrivent pas de manière désordonnée et aléatoire, cherchent une seule chose, faire en sorte que nous passions à offensive de manière à porter nous-mêmes la responsabilité de la dégradation du climat vis-à-vis de la Russie et ensuite entrer dans des débats sans fin auprès de nos différentes opinions publiques qui ne manqueraient pas de nous faire remarquer que nos dirigeants prennent un risque extraordinaire, qu'on va au-devant de la Troisième Guerre mondiale, qu'ils sont irresponsables d'entretenir un climat conflictuel avec une puissance nucléaire.
On a le sentiment, en vous écoutant, que dans le fond, cette stratégie des incursions russes ne fonctionne pas véritablement. Ne fonctionne pas d'abord parce qu'ils ne parviennent pas véritablement à fracturer les pays de l'intérieur, je pense notamment à la Pologne, comme vous l'expliquiez à Mélisima, et ne parviennent pas non plus à nous faire porter la responsabilité, nous faire porter le chapeau du déclenchement d'une guerre nouvelle.
Oui, tout à fait. Je pense que pour l'instant, il y a une grande unité de temps au sein de l'UE et de l'OTAN. Je pense aussi que l'OTAN a été peut-être un peu échaudée par 1999, le Kosovo, ce genre de choses, où elle est intervenue sans attendre le mandat de l'ONU, et que maintenant, on est en fait sur un très grand respect de la légalité, du droit international, du droit de la guerre, et justement pour ne pas de nouveau en fait prêter le flanc à des critiques. Et puis, on a une grande prudence en fait aussi sur quand des incursions se passe, quand il y a des actes terroristes qui sont commis sur le sol, avec des enquêtes qui sont faites pour réellement attribuer et attribuer correctement. Alors, c'est nouveau, ça, d'attribuer. Avant, on n'attribuait pas autant. Maintenant, on le fait, mais on le fait après des enquêtes, en fait. Même là, pour les incursions de drones au-dessus de la Pologne, il y a une enquête qui a été ouverte pour voir, pour étudier vraiment ces drones et ne pas se tromper dans l'attribution. Donc, effectivement, cette grande prudence permet de dire, en fait, aux Européens que eux respectent le droit international et qu'ils ne sont pas justement dans cette fébrilité face à ces incursions.
Grande prudence, nous dit Amélie Zima. Vous êtes d'accord, Elsa Vidal ? Grande prudence ou timidité manifeste de l'OTAN ?
Alors, un peu des deux, parce que pour ça, il faut décentrer un peu le regard ou la parole. Et du point de vue de nos règles, il est très important vis-à-vis de nos citoyens et des électeurs aussi, des autorités qui nous gouvernent, de faire entendre que nous suivons des règles, nous n'agissons pas de manière désordonnée et chaotique, et donc il n'y a pas de danger par notre réaction supplémentaire créée. En revanche, je pense qu'il y a une erreur qui est faite fréquemment, qui consiste à essayer de dialoguer avec les autorités russes comme nous dialoguerions entre nous, c'est-à-dire en invoquant des règles, des droits qui seraient partagés. Or, ils ne le sont pas.
Ce n'est pas le langage de la Russie aujourd'hui.
Non, ce n'est pas le langage de la Russie. Et si on se reporte à l'exemple donc de novembre 2015 qu'on peut évoquer, qui est celui de la réaction de la Turquie face à une infraction caractérisée, mais de 17 secondes seulement, par un chasseur russe qui est entré dans l'espace aérien qui menaçait les intérêts turcs, qui a été abattu, eh bien, on se dit que finalement, le moins de mots pourrait être beaucoup plus efficace. Au sens où, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement...
Il faut frapper plus rapidement, plus
pas
systématiquement.
Pas nécessairement, mais il faut se garder de trop expliquer la nature de nos raisonnements et la manière dont nous prenons nos décisions. Il faut le faire vis-à-vis de nos électeurs, il faut le faire une fois peut-être vis-à-vis de la Russie. Mais ensuite, je pense que le message le plus simple, et il est absent à mon sens, parce que la réalité de la puissance européenne peine à se former, le message le plus simple est un message de souveraineté. Peu importe, après tout, la provenance de ces drones, ils pourraient aussi bien provenir de Chypre, de Malaisie, de Chine ou de Grande-Bretagne. S'ils entrent dans un espace aérien où ils ne sont pas invités à entrer, s'ils sont en infraction, s'ils posent un danger, nous sommes responsables de la sécurité de cet espace aérien et en réalité, nous nous fichons de savoir d'où viennent ces objets volants, nous pouvons tout à fait les abattre. Et c'est de cela que nous devrions seulement nous soucier plutôt que de donner prise à l'inquiétude qu'on cherche à susciter à Moscou au sein de nos propres... Enfin, une inquiétude qui porte sur notre propre réaction et non pas sur l'intention belliqueuse face à laquelle nous sommes confrontés.
On parle, Amélie Zima, de règles, de droits, de procédures. Alors éclairez-nous, quelles sont les règles, les procédures à suivre lorsqu'un engin volant entre en Pologne, en Estonie ? Qu'est-ce qu'un pilote de l'OTAN peut faire aujourd'hui ?
Alors effectivement, donc c'est dans le cadre notamment de la police du ciel de l'OTAN, donc cette mission qui a été mise en place en 2004. Donc il y a des règles d'engagement. Les règles d'engagement sont pour partie classifiées. Elles sont différentes en temps de paix et en temps de guerre. L'OTAN est actuellement en temps de paix. Elle n'est pas en guerre avec la Russie,
oui.
Évidemment. Oui. Donc que peut faire un pilote en cas de violation ? Donc un pilote en cas de violation, il fait ce qu'on appelle, il prend des éléments, c'est-à-dire qu'il va voir ce qui se passe, ce qu'est l'avion. Il prend des photos pour pouvoir le reconnaître. Il examine l'armement qui est embarqué parce que l'avion n'a pas forcément un armement embarqué. Il va essayer de rentrer en communication avec le pilote. Il y a des fréquences radio d'urgence qui permettent de rentrer en communication avec le pilote pour lui demander ce qu'il fait là et pour lui demander de sortir. Il peut contraindre son itinéraire, lui intimer de se poser, par exemple, sur un aéroport ou de quitter l'espace aérien. Et puis, si l'avion refuse tout ça, eh bien, dans ce cas-là, on peut passer encore une étape qui, pour l'instant, à ma connaissance et à la connaissance des personnes avec qui j'ai discuté de ces questions-là à l'OTAN, n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'on passe au tir de semonce, de sommation en fait, et c'est seulement après qu'on passe au tir de destruction. Sachant que le tir de destruction, normalement, nécessite l'accord de l'État autour, au-dessus de, la, de quel le tir va se produire.
Parce l'accord que c'est de l'État, pardonnez-moi, c'est une décision politique, non
oui,
militaire.
Oui, c'est ça, c'est une décision politique, parce qu'en fait, on est au-dessus d'un État, donc il y a des questions de souveraineté, en fait, et un pilote de l'OTAN, qui peut être néerlandais ou italien, tout ça, s'il doit descendre un avion russe au-dessus de l'Estonie, ben voilà, il faut quand même l'accord de l'Estonie. Donc des discussions sont en cours, ces procédures sont déjà fortement harmonisées au sein de l'OTAN. Suite à ces violations, il y a encore des discussions qui sont en cours pour encore plus fortement harmoniser cela, puisque la force de l'OTAN, en fait, c'est justement ces procédures communes. Hein. C'est que les 32 États membres fonctionnent avec des procédures communes. Donc voilà, à peu près. Donc il y a toute une gradation, en fait, entre le moment où l'avion rentre et le moment où éventuellement on le détruit, sachant que normalement on ne détruit pas un avion en temps de paix.
Autre citation signée d'un spécialiste des questions aériennes anonyme. Il s'exprime dans le journal Le Monde. En une nuit, dit-il, des millions d'euros ont été dépensés en missiles pour abattre des drones d'une valeur de 100 000 euros au total. Combien de temps cela peut-il durer? Je vous pose cette question, Elsa Vidal.
Bah, le temps qu'il faudra, je pense que, alors évidemment.
Cette asymétrie de budget et de moyens engagés.
Rationnellement, enfin, si la rationalité qu'on évoque là est financière et économique, c'est vrai que c'est dommage, cette rationalité ne plaide pas en notre faveur. Mais le défi actuel est infiniment plus politique et stratégique, et je pense qu'il surplombe tous les autres. Évidemment, ça n'a échappé à personne du métier, et c'est pour ça que dès demain, il va y avoir notamment cette réunion organisée à l'initiative de la Commission européenne que vous évoquiez juste avant, Amélie, pour tous les pays qui sont favorables à la création d'un mur de drones de défense. Ces petits drones, parce qu'il y en a qui sont quand même de la taille quasiment d'un avion. Le terme de drone désigne une quantité d'objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni dans le prix, ni dans les capacités. Et donc, il s'agit effectivement de combler un retard, ce retard étant dans la défense par de petits drones, mais politiquement et stratégiquement, quand bien même cela coûte beaucoup d'argent, le message valait vraiment le coup d'être envoyé.
Amélie Zima, réaction, et au-delà, est-ce que la dronisation des armées de l'OTAN est en cours aujourd'hui ?
Alors, la dronisation est en cours, je souscris tout à fait à ce que dit Elsa Vidal, c'est aussi une question de signal politique, l'économie des chances de salve, c'est un point, mais ça ne fait pas tout. Là, ce qu'il faut aussi, c'est envoyer un signal politique d'unité à la Russie, et ben, s'il faut gâcher, à mon avis, quelques missiles à quelques milliers, centaines de milliers d'euros pour ça, tant pis. Ensuite, concernant la dronisation et la lutte anti-drone, donc la lutte anti-drone, elle va se faire aussi par ces systèmes de fortification que veulent mettre en place les pays baltes et la Pologne, qui sont d'ailleurs en cours de construction, puisqu'il doit aussi y avoir dans cette ligne de défense baltique, dans ce bouclier, des capteurs anti-drones, ce genre de choses. Ensuite, concernant la dronisation, le projet porté par l'Union européenne, qui doit réunir les Baltes, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, le Danemark, doit se faire aussi avec l'aide de l'Ukraine, qui a une expertise là-dessus qui est totalement incontestée et considérable. Et ensuite, la dronisation des armées est en cours aussi dans certains pays de l'Union européenne qui n'ont pas attendu ces incursions pour s'y mettre. Je pense notamment à la Pologne, qui est probablement le pays qui est le plus en avance dans l'UE sur ces questions-là. Qui a une entreprise privée qui travaille sur ces questions-là, qui produit des drones suicides, des drones d'observation, et la Pologne a pour volonté de construire une armée de drones. Donc le sujet, il est connu, et je dirais que là, il y a juste... En fait, il y a eu une sorte de retard à l'allumage, parce que les pays du flanc est, ils parlaient déjà de ça depuis, en fait, en gros, un an et demi, avec cette idée de mur de drones. Et c'est repris seulement maintenant, en fait, par l'Union européenne. Donc, il y a eu un petit retard à l'allumage.
En deux mots, la dronisation, elle est faite par souci d'efficacité. Je veux dire qu'on écrase mieux des drones avec d'autres drones, ou bien c'est difficile d'écraser des drones avec des avions.
C'est-à-dire que si vous avez des essaims de drones, en fait, on ne va pas faire décoller multiples avions de chasse avec, justement, ces missiles qui coûtent extrêmement cher. Pour détruire ces drones. Quand l'attaque où il y a eu l'incursion des drones en Pologne, il y a eu plus de, je crois, 450 drones qui ont été envoyés sur Kiev. Donc évidemment, vous imaginez, enfin, c'est pas possible de traiter tout ça avec des missiles d'avions de chasse. Donc il y a besoin d'avoir d'autres choses. Et donc c'est pour ça que cette dronisation est nécessaire. Mais c'est quelque chose que les pays du flanc est, en fait, ont tout à fait intégré et sont en train, en fait, de développer.
Et les États-Unis, Elsa Vidal, dans tout ça, les États-Unis dont on observe depuis les réélections de Donald Trump une solidarité toute relative, c'est moins qu'on puisse dire. Là, sur le flanc de l'Est, quels sont les enjeux pour eux ?
J'aimerais beaucoup le savoir, parce qu'il y a eu des flottements et des retournements si profonds que...
Ils sont impliqués, ils ont leur armée présente, des contingents présents en Allemagne, en Italie, en Roumanie. Alors, ils ont bien des enjeux militaires et
Donald
stratégiques.
Donald Trump fait planer une forme d'incertitude. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas certain de venir au secours de pays du flanc est de l'Europe et de l'OTAN si ceux-ci étaient attaqués, avant de faire volte-face après sa rencontre avec Karol Navrotsky, qui s'est très bien passé. Karol Navrotsky qui représente aussi, et là est le poison, je dirais, une forme de droite extrême en Pologne que Donald Trump soutient et dont il voudrait voir l'avènement dans l'ensemble des pays européens, enfin en tout cas dans le plus grand nombre de pays européens, et des droites en tout cas plus radicales les unes que les autres. À sa manière, je pense que, comme Moscou, Donald Trump poursuit un objectif en ce qui concerne l'Europe, pas un objectif militaire, en ce qui concerne l'Europe politique. Il souhaite que l'Europe se désintègre pour revenir à un régime de nations, autant de nations qu'il y a d'États. Et l'Europe, en tant que structure supranationale, il n'en veut pas. L'OTAN semble avoir retrouvé de l'intérêt à ses yeux parce qu'il peut en tirer des ressources financières et peut-être pour le moment parce qu'il lui permet de faire plier Vladimir Poutine, qui l'a irrité, qui l'a humilié. Combien de temps durera cet alignement? On ne le sait pas. J'ai tendance à penser que Donald Trump pourra rester aligné sur l'Ukraine avec les Européens si nous faisons constamment la démonstration que c'est le meilleur moyen pour lui de remporter cette guerre et donc d'engranger un nouveau succès et peut-être d'aller vers le Nobel de la paix. Je ne vois pas plus de construction idéologique. Je crois que jusque-là, nos leaders ont fait un travail assez fantastique de confiance et de conversion de Donald Trump, de la vision de Donald Trump à notre vision de la sortie de la guerre. Mais pour ce qui est de son soutien à l'OTAN en Europe et à la Pologne, il l'a réitéré hier. Sera-t-il fidèle à sa parole la semaine prochaine? Nul ne peut le dire.
Mais il y a tout de même, objectivement, Amélie Zima, quelque chose que l'on dit trop peu. Les États-Unis sont dépendants de l'OTAN, en quelque sorte, s'agissant de leur stratégie en Europe et en Europe de l'Est. Il faut aussi le souligner, le préciser, le réaffirmer, j'ai envie de...
Alors, les États-Unis sont présents en Europe de deux façons. Ils y sont présents dans le cadre de l'OTAN et ils y sont présents aussi de façon bilatérale. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Par exemple, la présence bilatérale américaine en Pologne, c'est 10 000 hommes. Donc, c'est quand même un contingent qui est extrêmement important. Donc, déjà, si on parle, par exemple, de désengagement des États-Unis de l'Europe, il faut savoir s'ils veulent se désengager de l'OTAN ou s'ils veulent se désengager de façon bilatérale. Par ailleurs, au sein de l'OTAN, ils disposent quand même de postes qui sont extrêmement importants. Le poste de SACUR, qui est le commandant opérationnel de l'OTAN. Ils disposent aussi d'un certain nombre de bases qu'il dirige, je pense notamment à Naples. Et Naples, c'est extrêmement important parce que Naples, ça permet la projection aussi sur la Méditerranée. Parce qu'en fait, les postes sont à double casquette, c'est-à-dire qu'à la fois, il dirige la base OTAN de Naples, mais il dirige aussi une base américaine, donc les postes sont à double casquette.
Mais donc, est-ce qu'ils se sentent concernés eux-mêmes par ces incursions? Qui traversent les ciels européens.
Honnêtement, je pense que discourir sur les déclarations de Donald Trump, très honnêtement, je pense pas que ce soit extrêmement intéressant parce qu'il dit tout et son contraire.
Mais il y a d'autres voix aujourd'hui dans l'administration américaine.
Mais ce qu'on voit, par exemple, si on regarde d'autres déclarations, je pense par exemple au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, concernant la Pologne, sa ligne n'a pas changé depuis le mois de janvier. La Pologne est un excellent allié, la Pologne investit dans la défense, c'est un modèle à suivre par tous les autres pays pour l'OTAN. Et la ligne n'a pas changé. Et je pense qu'en fait, ce que fait aussi cette administration, c'est une sorte de bilatéralisme et de dresser un peu les alliés au sein, les uns contre les autres, en fait, de dire qui sont les bons, qui sont les mauvais. L'Allemagne pendant très longtemps était mauvaise. Là, avec le plan de réarmement, je pense qu'ils seront toujours considérés comme mauvais parce que ce plan de réarmement fait la part belle à l'industrie européenne. Donc, il y a une sorte comme ça de bilatéralisme parce que l'administration Trump, en fait, ne veut pas être pris dans des structures multilatérales parce que le multilatéral contraint l'OTAN. D'accord, les États-Unis sont puissants, mais il y a quand même 31 autres membres, plus un secrétaire général. D'une certaine façon, ça contraint aussi. Et c'est ce fonctionnement multilatéral qui ne leur plaît pas, en fait.
Un grand, grand absent depuis le début de cet échange, l'Union européenne. Alors donnons la parole à Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne.
Il est impossible que la Russie ait accidentellement violé l'espace aérien européen à 3 reprises en 2 semaines. Et si c'était accidentel, s'il s'agissait d'une erreur, la Fédération de Russie aurait eu largement le temps de présenter ses excuses. Au lieu de cela, nous constatons un schéma qui se répète. La Russie teste les frontières européennes. Elle compromet la sécurité de toute l'Europe. La Russie continuera à provoquer tant que nous le lui permettront. C'est pourquoi les Nations Unies et la communauté internationale doivent condamner clairement de tels actes. Il s'agit d'une violation de la Charte des Nations Unies qui oblige tous les États à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays. Et il est particulièrement cynique qu'un membre permanent du Conseil des Nations Unies, chargé de sauvegarder la paix, cherche activement à le compromettre.
Elsa Vidal, est-ce que l'Union européenne est là dans une réaction bien trop timorée ?
Non, je pense que Kaya Kallas est vraiment dans son rôle. Elle met à profit toute son expérience d'ancienne première ministre de l'Estonie, qui connaît bien le poids que l'Union soviétique puis la Russie a fait peser sur ses voisins, dont elle questionne parfois l'indépendance ou la légitimité à exister.
J'ai l'impression qu'elle dit peu de choses.
Elle dit beaucoup de choses à mon sens.
Alors, décryptez ce qu'elle dit.
Beaucoup trop de choses à mon sens. Ben, elle invoque effectivement ce qui relève du multilatéralisme, le droit international, ce qui sont les valeurs de l'Union européenne et aussi les valeurs censément de la communauté internationale dans la charte de l'ONU. Mais elle part du principe que la Russie devrait les respecter parce qu'elle en est partie, parce que la Russie a signé, adhéré et donc est censée respecter ces normes. Mais elle est à la fois parfaitement consciente que ce n'est pas ce que font les dirigeants russes depuis plusieurs années. Donc il y a une grande partie, je pense, de cette réponse qui est en pure perte. Il y a un langage beaucoup plus efficace qu'elle connaît parfaitement. Elle n'a plus à convaincre au sein de l'UE. Le langage, s'il s'agit de le tenir aux Russes, c'est de dire « Vous entrez dans notre espace de souveraineté. Nous nous réservons le droit de réagir comme nous le jugerons nécessaire. »
Amélie Zima, votre interprétation des propos de la vice-présidente de la Commission européenne, elle dit beaucoup selon vous également ?
Bah, moi, je pense quand même que l'UE, déjà, elle fait beaucoup, en fait. L'UE fait beaucoup depuis le début du conflit en Ukraine. On a tendance quand même à l'oublier. Les sanctions, c'est l'Union européenne. L'aide humanitaire, c'est l'Union européenne. Le financement via la Facilité européenne pour la paix d'armes, c'est aussi l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place aussi des programmes d'achat d'armement. Je pense au programme SAFE, notamment, qui devrait monter dans l'absolu à 800 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. Le mur de drone qui a été donc repris par Ursula von der Leyen. Donc, l'UE fait, elle est présente et donc je pense qu'il y a une mauvaise image en fait de l'Union européenne alors que c'est une organisation qui quand même a un rôle quand même prépondérant quand même depuis février 2022.
Merci à beaucoup à toutes les deux d'être venues nous éclairer sur ces incursions russes dans le ciel européen. Amélie Zima, vous êtes chercheuse au sein du Centre des études de sécurité de l'IFRI, responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique. Je signale le Que sais-je qui a paru sur l'OTAN en 2021, réédité en 2023. Elsa Vidal, spécialiste de l'espace post-soviétique et de la Russie, vous êtes l'autrice de l'ouvrage intitulé « La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie ». C'était chez Robert Laffont en 2024. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vincey, Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Antoine Héral. À suivre après le journal « Qu'est-ce que le mépris de classe ?» Le mépris social, on en parlera avec le chercheur François Dubet.